La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume.
Des signaux préoccupants pour la liberté de la presse au Pakistan.
Oui, plusieurs articles dans la presse internationale font état d'un durcissement du climat politique et médiatique à Karachi, à commencer par l'enquête que signe le journaliste pakistanais Walid Tariq dans la revue Nikkei Asia. Il y décrit un nouveau serrage de vis infligé par le gouvernement d'Imran Khan pour le compte des puissants chefs militaires pakistanais aux journaux du pays pour, je cite, les mettre au pas. Plusieurs médias se plaignent dans l'article de Walid Tariq de subir des pressions éditoriales avec la menace de perdre de gros contrats publicitaires de la part de sociétés proches du gouvernement. Et la menace est d'autant plus pressante, nous expliquons, que ces médias sont déjà mis à mal dans leur survie financière par la réforme des aides publiques à la presse engagée par Imran Khan depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Sous couvert de réduction de la dépendance de ces journaux aux aides publiques, on a asséché leurs revenus et on les a jetés dans les bras des annonceurs privés, ce qui a forcé les patrons de presse à miser sur une information non clivante de basse qualité pour attirer les contrats publicitaires à tout prix. Ce double piège est en train de se refermer sur la presse pakistanaise, nous dit en substance l'article de la Nikkei Asian Review. Et cela arrive, complète le Financial Times, à un moment où l'actualité politique au Pakistan est marqué par une tentative de l'opposition à Imran Khan de s'unir contre lui. Les héritiers des différentes dynasties politiques pakistanaises se sont affichés ensemble à la fin du mois de décembre autour de la tombe de l'ancienne première ministre assassinée Benazir Bhutto. Pas moins de 10 partis d'opposition se sont ligués au sein d'un nouveau mouvement démocratique du Pakistan pour contester justement le pouvoir du premier ministre actuel, dont le bilan économique, il faut bien le dire, est jugé décevant par beaucoup, avec une forte inflation sur les aliments de première nécessité et aussi un bilan qui n'est pas très bon sur la gestion de la dernière crise en date, l'exécution par Daesh de 11 mineurs de la minorité Hazara, sans même parler de la gestion de la crise sanitaire. Imran Khan, l'ancien champion de cricket devenu chef de gouvernement, se sait fragilisé. Cela n'est sans doute pas sans lien avec le fait qu'il essaye de faire taire les voix dissidentes, estime pour sa part l'ONG Human Rights Watch, qui confirme les inquiétudes de Walid Tariq sur la liberté de la presse. Ajoutez à cela l'alerte lancée par Reporters sans frontières pour dénoncer les campagnes de haine en ligne très virulentes dont sont victimes en ce moment les journalistes des rédactions en langue ourdou des médias britanniques The Independent et la BBC, accusés par des groupes nationalistes de ne pas être assez patriotes dans leur couverture de l'actualité pakistanaise. Toujours selon RSF, pas de doute, les trolls informatiques qui s'acharnent en menaces contre les journalistes sont bel et bien pilotés par l'état-major militaire du Pakistan.
Nous évoquions hier matin, Camille, avec nos invités, les 10 ans de la révolution tunisienne et vous avez choisi d'évoquer l'un de ses aspects financiers.
Et avec cette question, qu'est devenu l'argent du clan Ben Ali Trabelsi, accusé d'avoir détourné des milliards d'euros en biens mal acquis pendant son règne de 23 ans, un règne qui se donc achevé brusquement le 14 janvier 2011. Eh bien, ce matin, le quotidien suisse Le Temps nous apprend qu'une partie de cette fortune se trouve toujours dans des coffres-forts de banques helvétiques où elle avait été gelée, cette fortune, au moment de la Révolution. Mais 10 ans plus tard, le dégel s'annonce, les quelques 300 millions d'euros en question risquent bien de se retrouver à nouveau mardi prochain minuit dans les poches de Leila Trabelsi, la veuve du dictateur en exil en Arabie Saoudite. La Suisse estime que la Tunisie aurait dû trouver en 10 ans un moyen d'identifier précisément l'argent, de prouver qu'il a été détourné des caisses de l'État et devrait y revenir. Mais les Tunisiens, maintes fois relancés par Berne, n'ont apparemment pas suffisamment coopéré selon les autorités fédérales suisses. Et à Tunis, on rejette la faute, cette fois sur les Helvètes, leur manque de transparence bancaire qui a compliqué l'identification des biens mal acquis. L'auteur de l'article du Temps, Mathieu Galtier, qui est basé en Tunisie, signe également un article sur cette ruée sur les fonds Ben Ali en Suisse dans la revue Jeune Afrique, où il nous rappelle que sur les 13 milliards de dollars qui auraient été détournés par le clan Ben Ali Trabelsi, la Tunisie n'a récupéré pour l'heure que 783 millions de dollars.
Et puis enfin, aux États-Unis, Camille, les administrations règlent leurs comptes contre la famille Trump à 5 jours de sa fin de mandat.
Oui, ça tire dans les coins avec des révélations tous azimuts dans la presse sur ce que l'entourage du président faisait subir à ceux et celles qui étaient censés les servir, voire les protéger. En l'occurrence, le Washington Post nous dévoile comment Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, qui est aussi conseiller spécial du président, ont pendant 4 ans fait vivre un calvaire aux agents des services secrets qui étaient chargés d'assurer leur protection rassurée à leur domicile de Washington. Ils leur ont interdit catégoriquement d'utiliser la demi-douzaine de cabinets de toilettes que compte leur luxueuse maison de près de 500 mètres carrés. Pour se soulager, donc, pendant leur longue journée de travail, les gardes du corps ont dû, et c'est ce que je rappelle, le très sérieux Washington Post raconte, avoir recours à des pots de chambre pendant un temps, voire même aller sonner chez les voisins pour demander à utiliser leurs toilettes, sauf que dans ce quartier ultra sécurisé réservé aux plus hauts dirigeants américains, eh bien les voisins, c'était la famille Obama ou encore un certain Joe Biden. Et finalement, les services secrets ont décidé de louer un studio chez un autre voisin pour que les agents puissent avoir leur petit coin à eux. Coût de l'opération, au moins 100 000 dollars, soit un peu plus de 80 000 euros, à la charge, bien sûr, du contribuable américain.
Merci beaucoup, Camille Magnard, pour cette revue de presse internationale. Il est 7h42 sur France Culture.